Des poches sous les yeux, l'interview, en partenariat avec la boîte à livres.
Jean-Pierre Filly, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur en histoire du Moyen-Orient contemporain. Vous enseignez à Sciences Po Paris. Alors, vous êtes assez médiatique. Les journaux, les radios, les télés font souvent appel à vous quand il s'agit de commenter l'actualité au Moyen-Orient et puis évidemment les tragédies que la France a connues au cours de l'année passée. Votre livre, donc, pour lequel on se rencontre ce soir, « Les Arabes, leur destin et le nôtre, histoire d'une libération », est paru aux éditions La Découverte fin août de 2015. Alors, vous qui êtes habituellement... obligé le plus souvent de commenter une actualité brûlante. Là, vous avez fait le choix de retracer 2 siècles d'histoire des Arabes depuis la chute de l'Empire ottoman à aujourd'hui. Alors, pouvez-vous commencer par nous situer un petit peu qui sont ces Arabes, sujet de votre livre, et puis évidemment pourquoi ce choix d'embrasser plus de 2 siècles de leur histoire ?
Eh bien, les Arabes aujourd'hui sont sans doute, il y a des débats, 300 millions. À l'époque où mon livre commence, c'est-à-dire il y a un peu plus de 2 siècles, ils sont 20 fois moins. Sur un espace qui va du Maroc jusqu'au golfe Persique, donc depuis l'ouest jusqu'à l'est, et puis du nord, le sud de la Turquie, jusqu'au Soudan, et en général le Sahara. Déjà à l'époque, la majorité des Arabes étaient musulmans, mais il y a toujours d'importantes populations chrétiennes, presque exclusivement au Moyen-Orient, et non pas en Afrique du Nord. Et donc ces Arabes, ils ont en commun une langue et un sentiment de participer à une culture qui les dépasse et qui a une histoire... absolument extraordinaire, dont la révélation de l'islam au prophète Mohammed, donc entre 610 et 632, n'est qu'une des manifestations.
Alors, l'histoire des Arabes et la nôtre, celle des Européens et des Français en particulier, sont donc intimement liées. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi cette histoire commune n'est pas enseignée aujourd'hui, alors que ce soit dans les écoles, au collège, mais ensuite au lycée ?
Il y a beaucoup de débats sur la façon dont l'islam, mais j'insiste, le monde arabe est enseigné dans l'éducation nationale. J'interviens à la demande de l'Académie de Paris devant les professeurs d'histoire-géographie qui sont très en demande de support pédagogique pour cette question dont on voit bien qu'elle est trop souvent posée de telle façon que les réponses sont toujours négatives ou frustrantes. Or, je crois qu'il faut être beaucoup plus simple. Je décris, je pose quelques jalons bien avant l'acte fondateur de cette histoire franco-arabe partagée, qui est l'expédition de Bonaparte en Égypte en 1798. Mais avant, il y a eu l'alliance entre François Ier et le sultan ottoman. Il y a eu des ambassadeurs envoyés par Louis XIV qui voulaient s'appuyer sur les Arabes pour servir les desseins de la France. Donc l'idée qu'entre Français et Arabes, il y aurait une proximité particulière. Alors il y a eu beaucoup d'occasions perdues, il y a eu des utopies. Il y a eu un projet d'union franco-arabe par celui qui avait succédé à Bonaparte en Égypte, qui est un général, Menou, qui s'était converti, il se prénommait Abdallah, il était marié à une noble égyptienne. On imagine ce que tout ça susciterait comme débat aujourd'hui. Et puis il y a eu les Saint-Simoniens qui, en Égypte mais aussi en Algérie, souvent d'ailleurs après s'être convertis à l'islam, qui prônaient une union franco-arabe. Il y a eu du temps de Napoléon III, un projet de royaume arabe qui se serait appuyé sur l'Algérie, mais se serait étendu jusqu'en Orient, et qui aurait été l'allié de la France du Second Empire. Donc on voit beaucoup de destins possibles qui n'ont pas été suivis. Et puis un paradoxe qu'on ne mesure pas assez, qui est que la Troisième République, quand justement elle succède et renverse le Second Empire, eh bien elle va aussi envoyer aux oubliettes ses projets franco-arabes. Et que donc la laïcité à la française va avoir, du fait de ces conditions d'imposition, par la force en Algérie et par la force la plus brutale, mais aussi du fait de la philosophie de ceux qui l'apportent, qui rejettent l'héritage du Second Empire, donc aussi ses projets franco-arabes, donc cette laïcité elle va avoir une tonalité anti-arabe, qui, au fond, n'a rien à voir avec la laïcité et tout avec l'histoire. Mmh. D'autant que cette même Troisième République va, par la bouche de Gambetta, prétendre que laïcité n'est pas un article d'exportation et donc va s'appuyer sur les confréries religieuses, surtout au Moyen-Orient, où donc la protection, entre guillemets, des chrétiens d'Orient va rester un acte de foi, c'est le cas de le dire, pour cette Troisième République, alors même qu'elle prône la séparation de l'Église et de l'État en France. Donc un double paradoxe qui fait qu'à mon avis, aujourd'hui encore, nous subissons cette islamisation des Arabes et cette focalisation sur les minorités chrétiennes qui sont au fond un héritage de la Troisième République, et il faut quand même le reconnaître, pas dans ses heures les plus brillantes.
À la lecture de votre livre, on peut découvrir que l'actualité tragique est la conséquence, si j'ai bien compris, de ce qui s'est joué à la fin de la Première Guerre mondiale, et finalement tout juste un siècle. Vous évoquez la Narda, la Renaissance arabe, qui a été donc comme étouffée par les puissances occidentales. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu plus ce concept de Narda, et puis le coup d'arrêt qui lui a été porté ?
Alors les Nardas, c'est l'équivalent arabe des Lumières. Alors il ne faut jamais l'oublier, d'autant que trop souvent on présente les Arabes et ou les musulmans comme étant rétifs aux dites Lumières et comme ayant besoin de se réformer, comme s'ils ne l'avaient pas déjà fait. Mais cette réforme, loin d'être aidée, portée par les puissances occidentales, elle a été combattue, soit sur la base d'un projet colonial, la France en Algérie, mais surtout en Tunisie, où il faut voir que la France impose son protectorat en 1881 dans le pays qui, 20 ans plus tôt, avait élaboré la première constitution du monde musulman. Donc on occupe un pays qui était pourtant dans un processus d'émancipation constitutionnelle. Et puis il y a la Première Guerre mondiale. Effectivement, ça c'est un tournant majeur, ça fait un siècle. Mais on voit bien que dans les différentes commémorations, dans les différentes célébrations, eh bien, il y a encore un angle mort. Or, cet angle mort, c'est que les Arabes, ils se sont engagés dans cette guerre comme alliés des Français et des Britanniques. Et qu'ils ont respecté cette alliance, qu'ils ont eu des pertes, qu'ils ont contribué largement à la victoire des Allemands et des Turcs au Moyen-Orient. Et qu'au lieu du royaume arabe qu'on leur avait promis, royaume indépendant, souverain, constitutionnel, ils avaient d'ailleurs réuni des congrès pour mettre en place ce nouveau pacte social, eh bien on leur impose une nouvelle forme de colonisation. C'est-à-dire que les Arabes, qui étaient largement déjà sous le joug colonial avant la Première Guerre mondiale, le sont tous à la fin de la Première Guerre mondiale, à une exception. Cette exception, elle pèse encore dans notre quotidien aujourd'hui. C'est un royaume en Arabie centrale qui prône une forme tout à fait radicale, obscurantiste, dogmatique d'islam, qu'on appelle le wahhabisme. Et ce royaume, sous la direction d'une famille, les Saouds, eh bien, il va prendre pied au cœur de l'islam, à la Mecque et à Médine. Ça aussi, c'est une conséquence, même si c'est décalé de quelques années, de la Première Guerre mondiale. Donc il n'y avait pas de fatalité à ce que les Lumières soient vaincues. Elles ont été largement vaincues par les Français et les Britanniques. Il n'y avait pas non plus de fatalité à ce que les plus obscurantistes des Arabes s'installent au cœur de l'islam. Dans les deux cas, je souligne l'importance de l'histoire pour montrer que ces occasions ont été perdues, mais aussi que d'autres futurs sont possibles. Ils étaient possibles à l'époque. Ils sont toujours possibles aujourd'hui.
Votre livre est très facile d'accès, son plan est clair, il est court, hein, 260 pages à peine. Vous vulgarisez au maximum votre propos, ce qui reste finalement assez rare, hein, quand on parle de ces sujets, puis quand on arrive à ce niveau de spécialisation que vous avez. Qu'est-ce qui vous anime dans cet objectif ?
Fondamentalement, c'est mon éditeur Hugues Jalon, donc le PDG de La Découverte, qui s'est livré avec moi à un travail tout à fait considérable. Aucun livre, et j'en ai écrit plus d'une dizaine, ne m'a demandé autant d'efforts. Pour faire simple et clair, il faut travailler beaucoup plus que pour faire un livre de 500 pages avec 100 pages de notes et beaucoup de concepts et de mots un peu abscons. Donc ce livre, il a été refait 3 fois, à chaque fois de manière assez approfondie, et je l'ai fait relire, y compris à des adolescents, pour qu'ils me soulignent les passages qui, à leur sens, étaient encore trop obscurs. Et donc il y a eu tout cet effort de pédagogie, dans le sens, je l'espère, le plus noble du mot. Mmh. Et par ailleurs, je suis animé par une démarche qui est une démarche citoyenne. C'est-à-dire, je considère que les problèmes des Arabes nous touchent intimement, profondément, et que donc nous devons pouvoir en parler avec nos mots à nous, nos mots de tous les jours. Je m'inscris aux antipodes intellectuels des spécialistes de la peur organisée, de ceux qui veulent dire, vous savez, vous n'y comprendrez rien, vous n'y comprendrez jamais rien, c'est terrible, c'est chaotique, c'est violent, c'est sanglant, et d'ailleurs, moi, l'intellectuel, je vais vous expliquer, parce que si je ne vous explique pas, vous ne pourrez rien comprendre, et sans moi, vous ne pourrez rien comprendre. Moi, je ne rêve que d'une chose, c'est qu'après avoir lu ce livre, les gens n'aient plus besoin de rien lire de moi, et puissent avoir accès directement à cette réalité qui les touche, qu'ils le sachent ou pas, pour le meilleur et pour le pire, d'une manière aussi directe.
On parle beaucoup du débat sur la constitutionnalisation de l'état d'urgence et puis de la déchéance de nationalité, qui pourrait être remplacée par la déchéance de citoyenneté. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que spécialiste depuis plus de 30 ans des questions moyen-orientales et donc de l'islam extrême et du terrorisme? Je vous pose la question parce que je vous ai entendu à la radio au lendemain des attentats du 13 novembre vous mettre un petit peu en colère à propos des raisonnements tenus et par la classe politique et par les journalistes, comme s'il restait dans l'incapacité de penser correctement le problème.
Effectivement, je crois qu'il faut toujours avoir en tête ce qui peut servir les djihadistes, leur propagande et leur projet totalitaire. Et donc, je crois, sans faire d'autocensure, sans rien s'interdire dans le débat citoyen, mais qu'il faut avoir cela en tête pour être sûr qu'on ne fait pas leur jeu. Il est évident qu'après le 13 novembre, ils voulaient susciter un cycle de violence raciste qui, fort heureusement, ne s'est pas développé. Mais ils voulaient aussi nous entraîner au sol en Syrie pour alimenter leur discours sur les croisades. Mais ils voulaient aussi, et c'est là où votre question m'interpelle très directement, que notre modèle républicain, que notre système de liberté publique et d'état de droit sorte meurtri de cette épreuve. Autant j'ai soutenu proclamation de l'état d'urgence, sans laquelle nous aurions eu, le 19 novembre, une deuxième vague d'attentats, sans doute dans le quartier de la Défense. Donc, grâce à ces mesures d'urgence, nous avons pu éviter une nouvelle tragédie. Mais l'urgence, par définition, c'est l'urgence. Ça ne peut pas devenir la norme, ça ne peut pas devenir le quotidien, sinon il y a une contradiction dans les termes. Donc je suis perplexe, pour ne pas dire plus, face à ces dispositions, et encore plus face à la déchéance de la nationalité, dont on voit bien qu'elle ne vise au fond dans son application une certaine catégorie de la population et de la classe politique française, parce que de toute façon, il est certain que les djihadistes ne seront jamais dissuadés par ce type de mesures, vu que pour la plupart d'entre eux, ils ont déjà abjuré la nationalité qui était à la leur à l'origine, avant de passer à l'acte terroriste. Donc il faut vraiment mettre en garde contre les dérives, à la fois dans le cadre du débat républicain, et tous les arguments ont été donnés, je crois, ces dernières semaines à ce sujet, mais aussi pour savoir qu'aller dans ce sens-là, eh bien, ça peut aussi alimenter la menace qu'on prétend combattre.
Alors sur un sujet peut-être un petit peu plus léger, les auditeurs de Radio Béton seront heureux de découvrir, s'ils ne le savent déjà, hein, que vous avez tenu un blog sur Rue 89 intitulé « Rock de Casbah, à l'écoute de la révolution arabe et de Jimi Hendrix ». Vous avez écrit un livre d'ailleurs sur Jimi Hendrix, « Jimi Hendrix, le gaucher magnifique », édité par Fayard. Alors comment faites-vous le lien entre la révolution arabe et Jimi Hendrix ?
Bien, d'abord il y a une passion partagée, hein, de ma part, aussi bien pour le monde arabe que pour le rock'n'roll. Et puis, il se trouve que si j'ai pu avoir la chance de comprendre plus tôt que d'autres ce qui se passait dans le monde arabe, c'est parce que j'étais à l'écoute des rappeurs. Ce n'est pas forcément la musique qui me plaît le plus, mais leurs textes sont extrêmement importants. Et pour ces rappeurs, Jimi Hendrix, dans le monde arabe, est quelqu'un d'important, comme Tupac Shakur, comme d'autres idoles américaines. Et en fait, en traitant avec eux, en traduisant leurs textes, ce que j'ai fait très tôt, en les publiant dans des livres académiques, eh bien, j'ai ouvert une nouvelle possibilité d'accès à une réalité arabe où on se concentre beaucoup trop, à mon sens, sur la littérature islamiste ou la propagande djihadiste qui, au fond, ne nous apprend pas grand-chose sur les forces et les pays d'où elle émerge. C'est très différent avec le rock ou le rap. Et il se trouve que, rappelons-le, ce fut tragique, mais le 13 novembre, 90 des 130 victimes sont tombées en écoutant un concert au Bataclan des Eagles of Death Metal, à qui j'ai consacré, je les ai appelés les phénix du rock'n'roll, un de mes posts sur mon blog qui est maintenant sur lemonde.fr et où je continue d'essayer de mener de front et en n'y voyant toujours aucune contradiction, ma passion pour le rock et mon intérêt pour le monde arabe dans ce qu'il y a de plus vivant, de plus jeune et de plus novateur.
D'accord, bien, merci beaucoup Jean-Pierre Filieu. Je vais vous laisser retrouver vos lecteurs qui vous attendent à la boîte à livres pour parler avec vous de ce livre paru récemment aux éditions La Découverte, « Les Arabes, leur destin et le nôtre, histoire d'une libération ». Merci.
Merci.
C'était l'interview des poches sous les yeux en partenariat avec la boîte à livres. Retrouvez cette interview sur radiobéton.com, despochessousleyeux.fr ou encore la page Facebook des poches sous les yeux.